voie est libre.
The Middle East, we're going to be sending a relatively small number of troops. I don't think Iran wants to fight, and I certainly don't think they want to fight with us.
Voici Luc Lavoie.
Trump, un peu plus tôt aujourd'hui, qui dit on veut pas se battre contre l'Iran, on veut pas aller en guerre contre l'Iran, et l'Iran veut certainement pas mener la guerre contre nous. Luc, c'est quand même un développement inquiétant.
Ouais, mais moins que ça en a l'air, parce que les 1500 troupes supplémentaires qu'il vient de déployer, ce sont des gens qui sont essentiellement dans des positions de non-combattants. Ce sont des gens qui vont aller, par exemple, faire fonctionner les fameux missiles Patriot. Les missiles Patriot, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est ceux qui servent à abattre des missiles tirés vers vous. Il va en avoir d'autres qui sont là pour des avions de reconnaissance. Donc, on n'en est pas du tout au déploiement de ce que l'expression des Américains le dit bien.
Boots on the ground.
On n'est pas encore rendu là.
Je pense personnellement, chouette que t'aies raison, là, mais moi, tout ce qui fait monter la température et les tensions avec l'Iran, à mon avis, c'est une mauvaise nouvelle.
Je pense qu'il y a un jeu là-dedans qui est très, très malsain, parce qu'il y a beaucoup de guerres dans l'histoire qui ont éclaté à cause d'un accident. OK? On se menace l'un l'autre, on se fait peur, on pose des gestes à la limite de l'acceptable, puis à un moment donné, il y a une erreur qui est commise, puis bang, la guerre déclenche. Ça, c'est ma vraie crainte, parce que moi, tout ce que j'ai entendu de Trump, je ne sais plus qu'est-ce que je peux croire de ce que dit ce gars-là. Mais il y a une constante.
Les Iraniens non plus, soit dit en passant.
Personne sur la tête.
Non, mais c'est ça le problème, là.
Mais moi, je pense que tu peux même pas décoder
les signaux qu'un gars comme ça t'envoie. Tu peux même pas les décoder parce que tu n'es jamais certain qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Puis qu'il dit la vérité, tu sais, parce qu'il est menteur comme un arracheur de dents.
Oui, mais moi, je pense qu'il y a une chose sur laquelle il a été presque constant depuis son arrivée en politique, c'est qu'il veut plus de guerre à l'étranger. Donc, essentiellement, c'est une position classique qu'on voyait autrefois aux États-Unis, l'isolationnisme. Il a tendance à vouloir se replier dans une posture isolationniste. On raconte qu'à l'interne, évidemment, il y a son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, l'homme avec la moustache la plus gigantesque au monde. Là.
Oui.
Un vrai vote en guerre. Lui, il pousse pour ça. Mais tu as d'autres personnes autour qui disent « calmons-nous », et encore mieux, j'ai pas appris ce matin que George W. Bush a dit « J'espère qu'il ne fera pas l'erreur d'aller attaquer l'Iran, ça va être pire que ce qu'on a fait en Irak. »
Ça, c'est une bonne nouvelle venant d'un ancien président républicain qui a quand même été à l'origine de deux guerres importantes avec l'Iran et l'Afghanistan. Je veux juste rappeler aux auditeurs, Luc, que les Américains ont déjà des dizaines de milliers de troupes au Moyen-Orient. Ils ont une base navale très importante au Bahreïn, là, juste à côté, donc dans le Golfe Persique. Ils ont une base navale, ils ont une base aérienne au Qatar, ils ont 5200 troupes en Irak, ils ont encore 2000 troupes, beaucoup de troupes spéciales là-dedans en Syrie, et tu allais ajouter?
Mais je l'ai ajouté qu'en gros, quand tu regardes la carte du Moyen-Orient, il y a 37 bases militaires américaines.
Bon.
Des plus grosses, donc les ports de mer pour la marine militaire, les pistes d'aviation et tout, mais ils ont 38 positions militaires, des bases militaires américaines qui encerclent littéralement l'Iran. Bon. Et alors, tout ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a un jeu dans ça, parce qu'il y a également Aviano en Italie, où est la plus grosse base d'avions de chasse et d'avions de bombardiers de tout l'OTAN.
Je pense qu'il y en a en Turquie. Ils en ont eu longtemps. Je pense
qu'ils
ont été fermés.
Ils n'en ont pas beaucoup. Je pense qu'il reste presque rien.
Il y en a encore en Afghanistan.
Mais je veux dire, donc, tout ça, c'est un peu du théâtre pour faire peur, puis faire du bruit.
Mais c'est quoi son objectif stratégique?
Son objectif stratégique, c'est de soutenir l'Arabie saoudite, le plus grand acheteur d'armes au monde, parce qu'à travers tout ça, aujourd'hui, il a annoncé d'autres choses. Hein. Il a annoncé qu'il allait passer outre à la loi sur l'exportation d'armes. Il y a une liste de pays aux États-Unis en vertu d'une loi dont l'Arabie saoudite fait partie. Si tu veux vendre des armes-là, tu as besoin de l'autorisation du Congrès. Il y a évidemment une exception à la loi en cas de conflit, blablabla.
Oui,
lui, il a dit non. Moi, je vends maintenant à l'Arabie saoudite des missiles de haute précision. Alors, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est le développement d'un nouvel axe qui est une drôle de combinaison. C'est l'Arabie saoudite, appuyée en bonne partie par Israël en sous-main,
oui,
qui veut devenir hégémonique sur cette région du monde. À côté de ça, tu as l'Iran, le grand empire perse, avec tout ce qu'il y a de rayonnement autour, autant culturel que militaire qu'économique, qui eux autres veulent assumer le rôle qui croit être le leur.
Et le centre de la religion chiite, évidemment, aussi.
Ben, c'est le centre de la religion chiite. Alors, les deux veulent être hégémoniques sur la région. Si tu regardes le cas de l'Iran, ben, ils ont qui comme alliés? La Russie, la Chine, hein?
la Syrie.
Mm-hmm. Puis des morceaux du Liban. Ouais, alors, voilà. ça commence à faire du monde à la messe. Là.
Mais c'est pour ça, tu sais.
C'est pour ça que je parle de... Ma crainte, c'est toujours un accident.
Ouais.
Il y a un avion russe.
Il y a des accidents qui sont provoqués parfois. Hein, ça a l'air d'un accident, puis ça ne l'est pas.
Ouais.
Moi, je suis un Saoudien, là, avec le fou qui dirige l'Arabie saoudite, là, parce qu'on sait qu'il est de plus en plus fou, qui a le goût d'en découdre avec l'Iran, notamment parce qu'au Yémen, il n'arrive pas à venir à bout des rebelles qui sont appuyés par l'Iran.
Et principalement parce qu'il ne peut pas régner comme il aimerait régner sur toute la région.
Alors, il voit que Trump vient renforcer ses contingents. Est-ce qu'il pourrait vouloir entraîner les États-Unis, justement, dans un conflit contre son compétiteur?
Excellente question, Bernard. Excellente question, parce que ça pourrait effectivement arriver. Mais à un moment donné, dans tout ça, là, c'est qu'il y a des questions économiques, il y a des questions géopolitiques. L'Iran, c'est à demeure un des plus grands producteurs de pétrole au monde. L'achemine largement vers la Chine. Vous avez la Russie, la Chine qui sont ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et qui disent aux Américains puis aux Saoudiens, faites attention, si vous venez dans cette région pour vous battre, vous allez trouver de l'opposition que vous ne vous attendiez pas à voir. C'est une situation dangereuse. Bien que je ne pense pas que nous sommes en face... toi, Bernard, peut-être es-tu assez vieux pour te souvenir de ça, mais la guerre du Vietnam, la vraie guerre, l'offensive agressive, a commencé en 65. Ça faisait depuis fin des années 50 qu'il y avait des instructeurs américains sur place. Mais quand ils ont déployé vraiment, c'est suite à ce qu'on avait appelé l'incident du golfe du Tonkin, où on disait qu'un navire militaire américain avait été attaqué par les forces du Nord-Vietnam.
Du Vietcong,
on a appris des années plus tard.
C'était un setup.
C'était complètement faux. Ceci n'était pas arrivé. Pourquoi avait-il fait ça? Parce que quand les États-Unis sont victime d'une attaque, le président devient vraiment le commandant en chef et n'a pas besoin de demander la permission au Congrès pour aller de l'avant. C'est ça qui est arrivé au Vietnam et on se demande des fois si c'est pas un scénario de ce type-là qui est en train de se dérouler sous nos yeux, parce que là, on dit qu'il y a quatre ports de mer pétrolières, des ports pétroliers qui ont été attaqués et que ce serait l'Iran qui a attaqué. Et c'est là que ce que tu soulèves est intéressant. Pourquoi? Tu sais, l'Arabie saoudite est bien capable de faire ça aussi. Oublie pas non plus que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en Pologne et officiellement, les Allemands sont entrés en Pologne parce qu'ils disent qu'il y a eu un incident sur leurs frontières, sur les postes frontaliers. On a appris par la suite que c'était des soldats du Reich qui portaient des vêtements de l'armée polonaise. Alors, tu sais, ça fait partie des scénarios de la guerre. Et la guerre, c'est la chose qu'il faut tout faire pour éviter en toutes circonstances. Ça ne donne que de la souffrance, ça ne donne que de la misère, du sang, de la destruction. Alors,
cette région-là, Luc, là, m'a dit.
Ben, c'est une poudrière, tu sais. Elle peut exploser.
Tu sais, puis il y a trop de. Puis on sait, Israël a l'arme nucléaire, l'Iran, mm-hmm. On pense bien, cesser de vouloir l'obtenir, quoique avec les nouveaux développements, ça va peut-être leur donner le goût, justement, de recommencer à travailler là-dessus. On sait que les Saoudiens ont derrière la tête depuis longtemps l'idée de se doter de l'arme nucléaire. Alors, tu sais, puis l'Irak a essayé à un moment donné. Là, on va s'arrêter là-dessus, parce que je veux quand même, dans les dernières minutes qui nous restent, parler de la première ministre Theresa May qui a annoncé qu'elle quittait. Elle est à mes yeux un exemple de ténacité, de résilience, pour ne pas dire de courage, mais elle était vraiment à bout d'options. Et puis, si elle partait pas, elle allait se faire foutre dehors par ses propres
C'est clair.
Hein? C'est ça, là.
Et tout à fait ça.
Mais est-ce que tu as été comme moi à un moment donné quand puis moi je suis anti-Brexit, je pense que toi aussi là tu es anti-Brexit, je veux dire moi je souhaite que l'Europe fonctionne, je crois là-dedans, mais donc je souhaitais pas que la Grande-Bretagne se retire.
Quand on est en Europe, tu deviens fédéraliste. Ah, bon, je comprends. Alors alors revenons à Theresa May.
Tu fais dire quelque chose que j'ai pas dit,
Bernard, essaye pas,
c'est une fédération d'États souverains. Mais cela étant dit, Theresa May, qu'on soit pour ou contre le Brexit, elle a démontré un courage phénoménal.
Non, écoute, elle est première ministre depuis juillet 2016, c'est-à-dire que David Cameron, qui a eu la plus stupide idée de l'histoire des 200 dernières années en Angleterre, déclenché un référendum là-dessus pour faire taire une aile de son parti qui voulait qu'on quitte l'Union européenne. Il a perdu son référendum, il a quitté le pouvoir, Theresa May a été choisie par le caucus, et depuis, elle avait fait campagne contre le Brexit, mais elle s'est dit, c'est la volonté populaire, c'est moi qui vais livrer la marchandise. Elle a commencé des négociations avec Bruxelles, avec le reste de l'Europe, pour voir s'il n'y avait pas moyen d'atténuer les effets les plus nocifs de cette séparation. Et il n'y a pas grand-chose que l'Europe avait envie de faire. Elle s'est essayée trois fois au Parlement. À chaque fois, elle a essayé de faire passer son accord avec l'Europe. À chaque fois, elle obtenait un petit peu plus de votes que la fois précédente, mais jamais assez pour lui permettre de gagner. Et pire encore, depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2016, le premier conseil des ministres qu'elle a nommé par rapport à aujourd'hui, il y en a 30 qui sont plus là. La plupart sont des gens qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas capables d'accepter les compromis qu'elle voulait faire pour atténuer les conséquences du Brexit. Alors là, il y en a eu une dernière qui a quitté hier. Là, je pense qu'elle était ministre de l'Intérieur. Et là, je pense que Theresa May s'est dit, il n'y a plus rien à faire. Alors, je dois partir. Elle nous a même...
Je veux dire, les Brits ne sont pas nécessairement dans une meilleure posture après son départ qu'avant. Là.
Ah non, parce que là, on s'en va vers ce qu'on appelle un Brexit dur. C'est-à-dire que tu vas te lever le 28 octobre au matin, puis tu n'es plus dans l'Union européenne. Puis il y a des postes frontaliers qui apparaissent. Puis il y a le contrôle des frontières qui recommence. Puis il y a les tarifs qui recommencent à s'appliquer. Il y a tout ça, tout en même temps. C'est ça, le Brexit dur. Et là, ça déclenche un débat à l'interne dans le Royaume-Uni. Parce que l'Écosse, qui a voté non à l'indépendance, va faire un autre référendum, puis tu peux prédire d'avance qu'ils vont voter oui, parce qu'ils ne veulent pas être exclus de l'Union européenne, que leur économie en Écosse repose en large partie sur de grandes institutions financières, principalement dans le domaine de l'assurance. Mais s'ils sont basés là, c'est parce qu'ils faisaient partie de l'Union européenne, puis ça permettait de faire des affaires sans frontières à l'échelle de toute l'Europe sur un marché de 600-700 millions de personnes. Sauf qu'avec un retrait de l'Union européenne, ils vont être obligés d'aller s'établir ailleurs en Europe pour continuer à faire des affaires. Alors l'Écosse ne veut pas en entendre parler. Puis de l'autre côté, tu as la République d'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, mais qui a quand même une frontière juste là avec l'Irlande du Nord, qui, elle, fait partie de l'Angleterre. Alors, si tu veux exporter, il faut que tu passes par là. Donc, c'est immensément compliqué.
Ça aurait été mieux qu'ils ne sortirent pas.
C'est une erreur historique absolument incroyable qu'ils sont en train de commettre.
D'ailleurs, ça se peut que ça finisse par un nouveau référendum dans lequel la majorité va finalement décider de rester, mais ce sera pour une autre discussion.
Ça me surprendrait parce qu'à l'heure actuelle, Bernard, toutes les grandes gueules, à commencer par Boris Johnson puis Nigel Farage,
ils vont gagner les élections européennes. Peut-être que je suis un peu naïf, mais je crois à un moment donné que le bon sens peut revenir force.
Moi, en plus, le bon sens, je partage ça avec toi, je trouve qu'une fédération, c'est la meilleure façon de fonctionner.
Je vais te laisser finir avec ça, mais tu sais ce que j'en pense.
Oui, Bernard!
Bonne fin de semaine, Luc! Et on se reparle, mes chers auditeurs, après cette petite pause, parce que, évidemment, il y a Christian Page qui s'amène avec les mythes et complots dans un instant.